Daniel Harari, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le PDG de Lectra. On va parler avec vous de votre actualité. Vous avez rencontré des investisseurs en ce début d'année. Qu'est-ce que vous leur dites sur les derniers mois d'activité de Lectra? Comment ça s'est passé pour vous?
L'année 2021 était une année exceptionnelle pour Lectra. Nous avons d'abord fait l'acquisition de notre concurrent historique, Gerber Technologies, en milieu d'année, au 1er juin, puis de deux startups, Netiven et Gemini. Et enfin, nous avons eu des résultats au deuxième et au troisième trimestre qui ont dépassé nos attentes et nous avons révisé notre guidance à la hausse en cours d'année.
Justement, quand on regarde ce marché, il y a eu des périodes, alors on ne va pas revenir sur 2020 où ça s'est arrêté brutalement, il y a eu des reprises, mais dans certains secteurs, il y a eu des fortes reprises, il a fallu gérer tout ça. Pour vous, comment ça s'est passé justement cette reprise, cette forte reprise?
Nous n'avons pas vraiment de visibilité sur ce qui se passe. On a été surpris à la baisse en 2020 comme à la hausse en 2021, mais nous avons pu gérer grâce à une certaine agilité au niveau de nos équipes, au niveau de notre site industriel, et nous avons d'une manière générale pu délivrer toutes les commandes que nous avons eues, des fois avec un petit peu de retard, mais toujours en restant dans des fourchettes raisonnables.
Avec vous, on parle de technologie, hein, que ce soit pour le secteur automobile, pour l'ameublement, pour la mode, bien entendu. À partir du moment où on parle de technologie, on a parlé aussi au cours des derniers mois de sujets de sourcing, de composants, de semi-conducteurs. Comment ça s'est passé pour vous de ce point de vue-là?
Pour Electra directement, nous avons été prudents puisque nous avons passé nos stocks de sécurité de 3 mois à 15 mois au moment où le marché commençait à se tendre. Donc nous n'avons aucun problème de disponibilité, mais ça joue sur un certain nombre de nos clients, notamment dans le secteur automobile où nos clients ne peuvent pas produire à hauteur des commandes qu'ils enregistrent.
Et la vision que vous avez justement dans ce secteur particulier, c'est que ça peut prendre encore du temps, parce que c'est vrai que ça a été le secteur qui a été le plus touché, hein, je dirais, parmi les secteurs industriels.
Alors, c'est le secteur qui a rebondi le plus vite pour nous début 2021, mais après, c'est le secteur qui a été le plus touché effectivement par tous les problèmes de composants et de matières premières un peu partout dans le monde.
Vous parliez effectivement des acquisitions que vous avez réalisées, dont celle de votre principal concurrent. Donc aujourd'hui, on est dans une phase d'intégration pour alors les startups, ça va peut-être plus vite que les grosses sociétés, mais on est dans cette phase d'intégration.
On peut considérer que l'essentiel de la phase d'intégration sera derrière nous à fin janvier. Les dernières mesures seront annoncées la semaine prochaine et seront effectives dans le courant du mois.
Justement, par rapport aux attentes sur cette acquisition, qu'est-ce que vous pouvez en dire aujourd'hui?
Nous avons annoncé en début d'année une guidance pour les deux sociétés intégrées de réaliser en 2022 un chiffre d'affaires qui retrouve le niveau de 2019. Et une marge d'EBITDA de 17 à 20 %, et nous avons confirmé ces objectifs lors de notre dernière communication de fin octobre.
Alors, vous aviez aussi donné aux investisseurs au marché pas une guidance, une feuille de route pour les années à venir. Alors, il y a eu forcément cette crise qui a peut-être modifié un certain nombre d'éléments. Quand vous regardez la feuille de route que vous aviez établie à l'époque et où en est Electra aujourd'hui, qu'est-ce que vous constatez?
Dans l'ensemble, on a tenu tous nos objectifs. On a eu une croissance évidemment qui a été heurtée par la crise de 2020, mais avec un rattrapage en 2021. Et puis tous les autres objectifs, notamment le virage vers le monde du SaaS, le fait de développer des nouveaux services pour les clients, ce qu'on appelle de développer le customer success, c'est-à-dire qu'on est passé d'un support technique de nos clients au fait de les assister pour atteindre leurs objectifs. Tout ça s'est très très bien passé. Nous sommes exactement en ordre de marche par rapport à ce qui était prévu à la fin de l'année dernière.
Alors, quand on parle d'industrie 4.0, pour Lectra, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'est-ce que ça va changer? On a parfois, quand on est un peu extérieur à cet environnement industriel, on a un peu de mal à comprendre. Pour vous, particulièrement dans votre secteur, qu'est-ce que ça veut dire?
L'industrie 4.0, c'est tout d'abord les sites de création et les points de vente, qu'ils soient physiques ou sur Internet, reliés aux sites de production. C'est le fait d'avoir dans les sites de production des outils qui soient intelligents, qui permettent de prendre des décisions. Donc, d'un point de vue technologique, c'est un mélange d'intelligence artificielle, de big data, de cloud, d'Internet des objets, avec des machines connectées, des logiciels connectés. Et pour donner un exemple, lorsqu'on crée un vêtement qui peut être fabriqué sur mesure, on va le créer de façon paramétrable pour qu'il s'adapte à la morphologie de la personne, à ses choix, à ses goûts. Quand un consommateur va aller en ligne, d'une façon ou d'une autre, on va repérer ses mesures, sa morphologie. Il va choisir, par exemple, pour une chemise, son type de col, de bouton de manchette. Et puis, le système va fabriquer automatiquement, en optimisant la production, sa chemise. Il va regrouper des commandes qui utilisent le même tissu et mettre en place un plan automatique de production.
Voilà des choses concrètes. Alors, sur ces marchés, justement, les consommateurs ont évolué aussi. Il y a des marchés en pleine mutation. On a un peu de recul maintenant. Vous avez un petit peu de recul par rapport à la fois à la crise et aux choix qu'ont pu faire les consommateurs. Comment vous voyez les choses, justement, sur cette évolution entre le physique, justement, et le digital?
Le digital, en termes de vente, a pris le dessus. Maintenant, nous sommes sur trois marchés qui évoluent de façon très différente. Dans le marché de l'automobile, qui est très automatisé, le virage vers l'industrie 4.0 s'est pris en premier, mais il est en butée du fait que les process sont déjà très rodés, très en place, et donc tout changement structurel est compliqué. Dans l'ameublement, qui était un monde assez en retard, la crise a entraîné un besoin des consommateurs de changer leur mobilier. Du fait de la fermeture d'un certain nombre d'établissements, d'hôtels, de restaurants, il y a eu du refurbishing, donc il y a eu une demande très forte. Et les ventes en ligne de meubles se sont démultipliées. Donc c'est un secteur qui a engagé une révolution qui n'était pas du tout attendue il y a un certain nombre d'années. Et puis dans la mode, on se retrouve avec probablement la fameuse courbe en K des économistes, c'est-à-dire des grands gagnants, des grands perdants. Le luxe, par exemple, est un grand gagnant de la situation. Et les gens qui étaient très présents sur Internet sortent avec un horizon très positif. Ceux qui l'étaient moins, les entreprises qui l'étaient moins, elles peinent à retrouver une activité normale. Donc aujourd'hui, un secteur vraiment divisé en deux, avec des entreprises très dynamiques et des entreprises qui souffrent.
On a beaucoup parlé aussi, et on en parlera encore en 2022 forcément, des sujets d'inflation. Est-ce que l'Electra était concerné d'une certaine manière?
Absolument. Nous avons une inflation de nos coûts, que ce soit les coûts de production ou les coûts salariaux. Nous avons réussi à les contenir, mais évidemment, nous subissons cette inflation dans le monde entier.
Le mot de la fin sur les perspectives, comment vous les envisagez? Est-ce que vous pensez revenir au niveau d'avant le début de cette crise?
Alors, nous avons quasiment atteint le niveau d'avant-crise en 2021, ce qui était inespéré en début d'année. Nous devrions le dépasser en 2022. Et puis, nous avons réussi à établir des équilibres financiers très sains, puisque d'une part, nous générons un cash flow positif, quoi qu'il se passe, en général supérieur ou nettement supérieur au résultat net. Et nous avons une activité récurrente très forte qui fait que nos frais généraux de l'année sont couverts par l'activité récurrente à hauteur de 95%, ce qui veut dire en gros que d'ici une semaine, nous aurons dépassé le point mort de l'année et nous commencerons à générer du profit.
Merci beaucoup, Daniel Harari, d'avoir fait le point avec nous aujourd'hui.
Merci.